Journal présenté par Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Après la fusillade de Munich la nuit dernière, on commence à y voir plus clair sur le profil du tueur de 18 ans. Conférence de presse de la police allemande actuellement en cours. Il était suivi sur le plan psychiatrique et aucun lien n'a été établi avec l'État islamique. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Sébastien Baer au début de ce journal. Par ailleurs, le bilan de la fusillade a été réévalué, 10 morts, 27 blessés, dont 4 graves. En Turquie, un décret sur l'état d'urgence a été publié ce matin au journal officiel. Les gardes à vue pourront durer jusqu'à 30 jours. 11 000 personnes victimes des purges du président Erdogan sont actuellement concernées. Nous irons ensuite en Chine, à Chengdu. Les ministres des Finances du G20 sont réunis jusqu'à demain soir. Pékin ne veut pas assumer seul les perturbations de l'économie mondiale et notamment le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Enfin, qui est Tim Kaine, le colistier d'Hillary Clinton, choisi par la candidate américaine à la présidentielle. Nous ferons son portrait avec Pierre-Yves Dugas en fin de journal. Le mobile de la fusillade reste toujours flou. Ce midi à Munich, où 10 personnes ont été tuées hier soir dans un centre commercial situé à proximité du stade olympique de la ville. Il y a également 24 blessés, dont plusieurs enfants. 4 de ces victimes sont dans un état critique. L'auteur des tirs, un jeune de 18 ans ayant la double nationalité allemande et iranienne, s'est suicidé après la fusillade. Une perquisition a été menée par la police ce matin à son domicile. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Munich pour France Culture. Une conférence de presse de la police allemande est en cours. On apprend que l'auteur de la fusillade de Munich n'a aucun lien avec l'État islamique.
Ah oui, absolument. C'est une précision importante. Précision apportée il y a quelques minutes par le chef de la police de Munich qui a livré cette information. Cela signifie donc que les enquêteurs envisagent plutôt la piste d'un forcené. On attendait depuis plusieurs heures maintenant cette précision. Ce que l'on sait d'autre du meurtrier, c'est que c'est un homme de 18 ans, vous l'avez rappelé, à la double nationalité allemande et iranienne. Il vivait dans le centre de Munich où il était suivi sur le plan psychiatrique. Il semblait souffrir d'une forme de dépression, a commenté le procureur. La perquisition menée en fin de nuit au domicile de ses parents à Munich pourrait également livrer davantage d'informations sur cet assaillant qui n'avait, dit-on, jamais eu affaire à la police. Une certitude, le jeune homme a fait irruption hier soir, vêtu de noir, dans ce centre commercial qui est l'un des plus importants de Bavière. Il savait que le lieu était très fréquenté, qu'il y aurait du monde à cette heure-là. Il avait au moins une arme à sa disposition. Il a battu 9 personnes avant de se donner la mort.
Alors la chancelière allemande préside en ce moment même un conseil fédéral de sécurité. Elle s'exprimera en début d'après-midi. Vous qui êtes sur place à Munich, comment réagissent les habitants ce matin après ce drame ?
Ben, il y a un semblant de retour à la vie normale en cette mi-journée. Seuls les abords du centre commercial où s'est passée la tuerie restent bouclés. La police scientifique est sur place. Beaucoup de gens de riverains aussi alentour qui se posent la même question. Comment est-ce possible qu'un tel événement se soit produit ici, à Munich ? Et ce matin, les quotidiens allemands qui titrent « Bain de sang à Munich » ou encore « Une ville dans la peur » résument à eux seuls avec ces titres les heures d'angoisse vécues par les habitants, apeurés, sidérés par ces événements. Des habitants qui sont restés pour certains bloqués de longues heures avant de pouvoir rentrer chez eux, car la ville s'est véritablement arrêtée pendant plusieurs heures la nuit dernière, avec des rues coupées à la circulation, la gare centrale fermée, les transports en commun, métro et tramway suspendus. À ceux qui étaient chez eux, la police avait déconseillé formellement de sortir. C'était une véritable chasse à l'homme qu'elle était en train de livrer, puisque les forces de l'ordre pensaient alors avoir affaire à 3 assaillants, ce que rapportaient certains témoins. La police s'est donc mise en quête de ces assaillants. Elle a contrôlé, elle a fouillé les véhicules, les personnes, et ce, une bonne partie de la nuit. Et c'est finalement un peu après 2h du matin, lors d'une conférence de presse, que la police a indiqué que le tueur avait agi vraisemblablement seul.
Merci Sébastien Baer, envoyé spécial de France Culture à Munich, où on le rappelle, l'auteur de la fusillade de la nuit dernière n'a aucun lien avec l'État islamique. En Turquie, une semaine après le coup d'État manqué organisé par une partie de l'armée, les purges se poursuivent. Selon le ministère de l'Intérieur, 4500 personnes sont en détention, dont 126 généraux et amiraux. Le putsch a fait 265 morts, dont 24 rebelles. Et ce samedi, un décret publié au journal officiel permet d'y voir plus clair sur les dispositions de l'état d'urgence décrété mardi soir. Principale disposition, les gardes à vue pourront durer jusqu'à 30 jours. 11 000 personnes sont concernées actuellement. Les précisions de Rajib Duran, universitaire et journaliste à Istanbul.
Alors, tout d'abord, faut-il préciser qu'on ne peut pas aller devant le Conseil constitutionnel sur l'anticonstitutionnalité de ces décrets. Donc, ce sont des décrets à appliquer définitivement. Alors, il y a plusieurs associations, plusieurs syndicats, plusieurs écoles qui ont été fermées. Il y a plus de 40 000 fonctionnaires qui ont été licenciés. Le décret précise que ces licenciements sont définitifs et que les personnes qui ont perdu leur travail ne peuvent pas aller devant le tribunal pour être réinsérées dans leur ministère. Donc, il y a bien entendu beaucoup d'opposition contre le contenu de ce décret-loi, mais il n'y a pas de moyen légal de s'opposer. Il y a le Premier ministre et le Président de la République qui ont déjà annoncé qu'il y aura encore d'autres décrets, la liberté d'expression, la liberté d'organisation, la liberté de manifestation sont déjà réprimées en Turquie. Alors, avec ces décrets, il risque d'y avoir encore plus de répression.
Des propos recueillis par Sarah Maquet. Le président Erdogan a dénoncé ce matin les préjugés de l'Europe envers la Turquie. L'Union européenne, qui depuis le début de semaine a plusieurs fois évoqué ses craintes pour le maintien d'un état de droit. Le FMI demande à plusieurs pays du G20 de muscler leurs dépenses publiques pour soutenir la croissance. L'Australie, le Canada, les États-Unis et l'Allemagne sont en particulier visés. Les ministres des Finances du groupe des 20 sont réunis à Chengdu dans le sud-ouest de la Chine jusqu'à demain soir avec des inquiétudes pour l'économie mondiale après le Brexit. La correspondance à Pékin d'Angélique Forger.
Officiellement, le Brexit est absent de l'agenda des discussions du G20 Finance qui se tient à Chengdu. Officiellement seulement, car cela ne fait aucun doute qu'il sera sur toutes les lèvres. Surtout que ce G20 Finance, le second cette année, marquera les débuts sur la scène internationale du chancelier de l'échiquier britannique Philip Hammond. Mais la Chine a prévenu, à la veille de l'ouverture du G20, elle ne peut pas enrayer seule les turbulences liées au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. La Chine est encore un pays en voie de développement. Il est impossible pour nous de porter le fardeau du monde entier sur nos épaules, a prévenu le Premier ministre chinois Li Keqiang devant un parterre de responsables du FMI. Une façon pour Pékin de rappeler qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable des maux de l'économie mondiale. La dernière rencontre du G20 Finance en février à Shanghai avait été dominée par les inquiétudes de ses participants sur le ralentissement de la croissance économique chinoise et sur la dépréciation accélérée du yuan. Mais depuis la Chine s'est stabilisée. La croissance au deuxième trimestre est restée au même niveau qu'au début de l'année, plus 6,7%, le signe qu'elle est en train de faire atterrir son économie en douceur, ce qui devrait lui permettre de rester éloignée du cœur des discussions de ce week-end.
La convention du Parti démocrate commence lundi à Philadelphie aux États-Unis. Elle va consacrer la victoire d'Hillary Clinton dans les primaires pour la présidentielle, la candidate qui a fait connaître hier soir le nom de son colistier. Homme modéré et d'expérience, Tim Kaine est le sénateur démocrate de l'État de Virginie. Son portrait est signé Pierre-Yves Dugas.
Âgé de 58 ans, sénateur de Virginie, un état clé dans la course à la Maison Blanche, dont il a été gouverneur, Tim Kaine connaît les Clinton depuis longtemps. Il aime passer pour modeste, mais efficace. Tim Kaine est plutôt centriste, il a dirigé le Parti démocrate de 2009 à 2011, mais il est néanmoins respecté par nombre de républicains au Sénat. En cas de victoire du ticket Clinton Kaine, ce vice-président pourrait servir d'intermédiaire avec les leaders du Congrès. Diplômé de droit de l'université de Harvard, tout comme Barack Obama, Tim Kaine parle espagnol couramment pour avoir travaillé au Honduras dans sa jeunesse avec des missionnaires jésuites. Voilà qui l'aidera à conforter la préférence des hispaniques pour le Parti démocrate. Le choix de Tim Kaine va déplaire à la gauche américaine. Le sénateur est favorable au traité de libre-échange transpacifique, farouchement dénoncé par les syndicats, mais aussi par Donald Trump.
L'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, fait appel de sa condamnation à 40 ans de prison. En mars dernier, il avait été reconnu coupable de génocide pour le massacre de Srebrenica. À Bruxelles, les précisions de Pierre Benazé.
Sa condamnation n'a pas fait dévier d'un iota Radovan Karadzic de sa ferme conviction qu'il est l'objet d'une persécution politique et qu'à travers lui, ce sont tous les Serbes de Bosnie qui sont visés. Dans les motivations de son appel, il estime que les juges se sont fondés sur des présomptions et non sur des preuves. Radovan Karadzic cite 50 motifs d'appel contre sa condamnation. Son procès, affirme-t-il, n'a pas été conduit de manière équitable car les juges du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, je cite, ne connaissent rien vient de la région, de sa culture, de ses langues ou de son histoire et se repose sur des procédures étrangères. Ils conduisent un procès dans une langue étrangère. C'est faire peu de cas des deux décennies de travail du TPI sur le conflit en ex-Yougoslavie ou des 5 ans qu'a duré le procès de Radovan Karadzic. Mais l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie peut au moins se targuer d'une réelle constance puisqu'il s'agit ici de la même rhétorique que celle utilisée par lui pendant ce procès où il avait choisi de se défendre lui-même. De son côté, le procureur du TPI, Serge Brammertz, a lui aussi déposé un appel, avec seulement pour sa part 4 motivations. Malgré sa satisfaction de voir Radovan Karadzic condamné pour génocide à cause du massacre de Srebrenica, il n'avait pas caché son intention de faire appel, estimant que 40 ans lui paraissait trop peu et que, selon lui, Radovan Karadzic devrait aussi être condamné pour génocide au titre de massacre commis ailleurs en Bosnie.
La météo de votre samedi, 3 départements du sud-est placés en vigilance orange pour des orages jusqu'à 20h. Il s'agit de la Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône et du Var.